La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Gérard Depardieu s'est battu hier en plein centre-ville de Rome. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Charles.
On ne s'en fout pas.
Julie.
On s'en fout pas.
Antoine.
On s'en fout pas, mais est-ce que c'est avéré?
Alors attends, je t'explique, oui c'est avéré. Ça s'est passé à l'heure du déjeuner devant l'un des bars les plus connus de la ville. L'acteur était en terrasse avec 5 ou 6 amis. Un photographe s'est alors approché pour essayer discrètement faire des clichés. Une femme était à la table de Gérard Depardieu. Elle a repéré ce photographe, elle lui a saisi le bras. L'acteur s'est alors levé et lui a donné au moins 3 coups de poing au visage. La police et une ambulance sont arrivées, mais Gérard Depardieu et ses amis avaient déjà quitté les lieux. Le photographe, qui avait le visage en sang, a dit vouloir porter plainte. Et ce photographe, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus célèbres paparazzi du monde. Il est même surnommé le roi des paparazzi. Son nom, Rino Barillari. Il a 79 ans et il a même 65 ans de carrière. 79 ans quand même.
Donc il a 65 ans de carrière, 70 ans. Il a commencé à 14 ans.
Oui.
Et il se fait
jeune.
Boxer par Depardieu. Charles.
Non, on s'en fout quand même un petit peu. Non, mais je pense que c'est un fait divers. Voilà, je pense que quand on est une...
Il vient emmerder Depardieu.
Quand on est une grande star, il y a toujours un moment où on met un pain à un paparazzi. Quand on est un paparazzi, il y a toujours un moment où on se prend un pain d'une grande star. Je pense que c'est à leur niveau respectif.
Julie.
Bon, moi je pense que ça en dit long sur le personnage et sa déchéance, c'est-à-dire qu'il s'en prend aux plus fragiles, les femmes et des paparazzis de 80 ans. Voilà.
Oui, c'est vrai, c'est une personne âgée, clairement.
En l'occurrence, l'histoire, elle est réécrite, d'après moi, parce que le paparazzi en question, il se vante d'être allé plus de 100 fois à l'hôpital pour s'être battu déjà avec des stars. Donc en fait, le bonhomme cherche la bagarre. Oui. Et Depardieu, c'est un sanglier blessé, quoi. T'es un chasseur, tu sais que le sanglier blessé, tu vas pas le caresser, quoi.
Donc,
je suis persuadé que le paparazzi y va volontairement pour provoquer Depardieu en sachant qu'il réagira. Et voilà, et c'est Depardieu qui a tort à tous les coups. Et on a des Julie bien pensantes qui disent c'est la déchéance
bien
d'un homme et tout. Mais non, mais franchement, laissons Depardieu tranquille. Je suis persuadé que
ne le laissons pas tranquille, surtout sur certains sujets très importants.
Là, je te dis, il est tranquille avec sa compagne. Et il y a un paparazzi connu
tu n'assènes pas
pour casser les bonbons
surtout quand tu fais la taille et le poids de Depardieu.
Je suis désolée.
On ne sait pas exactement.
Et moi, je trouve que c'est les polémiques faciles qui m'agacent et les bonnes âmes tout de suite de faire ah là là Depardieu.
C'est facile aussi d'avoir la position de réac que tu as aujourd'hui.
Une position de réac.
Moi, je suis assez d'avis de foutre la paix à Depardieu. La justice est saisie. Il y a une plainte. Il est mis en examen dans une affaire. Foutons-lui la paix. On lui cherche des poux parce qu'il va faire un film. Ben, s'il peut faire un film, s'il y a un producteur, en plus, ça a été plus ou moins démenti.
Son agent a démenti.
Mais si un producteur veut faire un film avec Depardieu, enfin, moi, je n'aime pas tellement cette époque de lynchage, d'inquisition. Je
n'aime pas l'époque non plus où les acteurs s'en prennent à des femmes et à des personnes.
Qu'est-ce que j'ai commencé par dire si la justice doit s'en mêler, que la justice fasse son travail. Mais les procureurs qui nous disent qui sont les gentils, les méchants, etc., ça fait très peur. Ouais, ça rappelle des heures sombres.
Les GG, la Russie est-elle derrière l'affaire des tags rouges inscrits sur le mémorial de la Shoah à Paris la semaine dernière? Vous savez, ces mains rouges, symbole antisémite, qui fait référence aux mains ensanglantées de terroristes qui avaient lynché des soldats israéliens lors de la deuxième antifada. Eh bien, la piste russe est donc dans cette affaire privilégiée par les enquêteurs selon le Canard enchaîné. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Antoine?
On ne s'en fout pas.
Julie?
On s'en fout surtout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Alors les deux auteurs des tags sont bulgares. Ils auraient été missionnés par la Russie pour une nouvelle manœuvre de déstabilisation. C'est aussi le même mode opératoire que l'affaire des étoiles de David, taguée dans plusieurs arrondissements parisiens en octobre dernier. Pourquoi on ne s'en fout pas, Charles?
Il y a une volonté très claire de la Russie de créer du désordre dans les démocraties, et notamment en France, puisque la France est assez... véhémente dans le conflit en Ukraine, dans la guerre en Ukraine. Et je pense, moi, qu'on doit effectivement y prendre la plus grande... y accorder la plus grande attention et ne pas se laisser déstabiliser. Souvenez-vous que même les punaises de lit, c'était les Russes. Et on a tous vécu, enfin beaucoup de gens se sont mis à vivre dans la psychose des punaises de lit, n'allaient plus au cinéma, ne s'asseyaient plus dans les transports en commun. Bon. Donc je crois qu'on doit y veiller très durement et réprimer ça très durement. C'est-à-dire que si on identifie par exemple ces fameux Bulgares qui auraient apposé ces taches rouges sur ce mur, je pense qu'ils doivent être sanctionnés pénalement par une peine de prison ferme et longue.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, là, il y a eu une cyberattaque qui a été lancée ce matin et les adresses IP qu'on a identifiées justement sur les mails qui arrivaient, c'était des adresses IP qui remontaient jusqu'à la Russie.
Mais bien sûr.
On voit qu'il y a vraiment une tentative de déstabilisation.
Ils ne cessent d'essayer de nous déstabiliser. Donc soyons très fermes dans notre réplique.
Julie.
Je suis tout à fait d'accord. La Russie a tout intérêt à déstabiliser la politique française et européenne. D'ailleurs, ça se manifeste de différentes façons. On l'a dit, les punaises de lit, les tags antisémites, mais également les mains rouges sur le mur de la Shoah. Ce sont également des chatbots russes aujourd'hui qui sont alimentés par les derniers grands modèles d'IA générative.
Alors, il faut expliquer ce que c'est, un chatbot.
Alors, ce sont des faux comptes. Avant, on avait des usines, en fait, si vous voulez, à hommes et femmes qui tapotaient un peu à la main des fausses informations sous la forme de tweets, de faux articles, etc. Aujourd'hui, les fausses informations sont massivement générées et diffusées auprès du grand public par des gros modèles d'IA génératives, par exemple ChatGPT, ce qui permet en fait d'aller toucher un plus grand public de manière beaucoup plus massive, beaucoup plus instantanée. Donc Twitter, par exemple, si vous êtes enfermé dans une bulle de filtre de désinformation ou dans des réseaux un peu extrémistes, vous allez être alimenté constamment par des chatbots russes ou des chatbots chinois qui ont tout intérêt à polariser la société française sur divers sujets et en plus à aller pousser des sujets en réaction. Par exemple, les punaises de lit, on se souvient tous que ça avait très vite dérivé sur la question de l'hygiène des migrants, malheureusement. Donc ça, c'est l'intérêt russe. Et c'est vrai que les Français doivent aujourd'hui avoir conscience de cela, surtout si près d'une échéance aussi importante que l'élection européenne. Le 9 juin, le Davos, par exemple, a rendu un rapport public qui est très intéressant et qui explique que l'ingérence et les fausses informations sont le principal risque électoral en 2024 pour l'élection européenne, pour l'élection de Donald Trump, pour toutes les grandes élections qui vont avoir lieu dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français n'en ont pas forcément...
Oui, on ne mesure pas forcément ce risque.
J'aime bien que tu dises non pas l'élection présidentielle américaine, mais l'élection de Donald Trump.
Ouais.
C'est déjà avéré.
On s'en souviendra.
Un mot là-dessus, moi je pense vraiment qu'il faut qu'on sorte de notre naïveté.
On enchaîne.
C'est-à-dire qu'on a oublié que la guerre était multivectorielle et on a complètement oublié ce pan-là de l'influence.
Voilà. Ok. Merci. Ah, là, j'ai marré au moins.
Voilà, le monde bascule, Anaïs rit.
Pardon.
Je sais pas si. Oui.
C'est parce qu'elle vit dans le monde des bisounours.
C'est Kafka.
Elle ne se rend pas compte que la Russie
vous attaque. L'Allemagne envahit la Pologne, après-midi piscine.
Voilà, Anaïs, elle est dans sa bulle de filtre.
Il faut.
Le monde bascule, mais Anaïs est dans sa bulle chipou.
Elle regarde
du côté d'ici les Moulineaux dans son monde. Le monde d'Anaïs.
C'est l'orchestre du Titanic. Elle continue de jouer.
D'ailleurs, c'est la même chose dans sa propre vie. Alors, continue.
Bon, on est sérieux.
Merci. Tout s'effondre dans sa vie.
Tiens, une bonne nouvelle. Écoutez, la méga levée de fonds d'une start-up française dans l'intelligence artificielle, justement. 220 millions de dollars au total levés par cette entreprise baptisée H auprès de très, très gros investisseurs, dont Bernard Arnault, Xavier Niel ou encore Amazon. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Julie?
On s'en fout pas.
Antoine?
On ne s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Et même Emmanuel Macron a salué la bonne nouvelle. Sur le réseau social X, il se félicite que des investisseurs choisissent la France pour lancer cette start-up qui rassemblera des scientifiques de renommée mondiale. Pourquoi on s'en fout pas, Julie, justement?
On s'en fout pas parce que c'est une excellente nouvelle pour l'intelligence artificielle en France. Néanmoins, je m'interroge parce que si l'on prend le cas de Mistral AI, qui était aussi qui est cette très belle start-up française, Bruno Le Maire, le gouvernement en avait fait la publicité comme étant la souveraineté française exaltée au sein de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on déchante tous parce qu'effectivement, Mistral AI va chercher un marché du côté des États-Unis. Bon, alors il suffit pas d'avoir des investissements, il faut aussi pouvoir offrir un marché français, un marché européen à des pépites comme ces pépites françaises. Exactement. Et aujourd'hui, on est en dessous de tout sur le sujet. Donc, il ne faut pas s'étonner que, à mon avis, cette entreprise aille chercher d'autres marchés que le marché européen.
C'est exactement ce que j'allais dire.
On est d'accord.
Au cœur. Non. Tu imagines, c'est fou. C'est plus gênant pour moi, je crois. On est au cœur de la créativité. Quoi. La vieille Europe est encore hyper créative, etc. Il y a plein de petites pousses qui sortent de notre terreau fertile, plein d'intelligence, etc. Mais
c'est beau.
Nos règlements, taxation, etc. feront que la petite plante ne pourra pas éclore chez nous et qu'elle partira éclore ailleurs. Je prends les paris, ils partiront ou ils seront rachetés et encore une fois, notre créativité partira. Eh bien, essayons que cette fois-ci,
ça soit de l'argent français, pas que français, c'est aussi. Dans